Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 17h. Et tout de suite, les nouveaux chemins de la connaissance. Bonjour Raphaël Antoven, la parole est à vous ainsi qu'à vos invités.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à vous et bonjour à tous. Quatrième émission ce jeudi de la série que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent cette semaine à la mythologie grecque. Après Lucien Gerfagnon, venu vous parler lundi de l'origine du mythe, Pierre Brunel, venu mardi vous parler du mythe de Sisyphe, et Bernard Sergent hier, qui est venu vous parler du mythe de l'Atlantide, c'est avec le philosophe et écrivain Vincent Delcroix, qui enseigne à l'École pratique des hautes études, auteur d'un remarquable Tombeau d'Achille, paru chez Gallimard en octobre dernier, que nous allons évoquer Achille, le héros aux pieds légers, mais aux talons poreux. Dans ce bref instant, votre innocence est absolue. Vous êtes en compagnie des héros. Ce qui se donne à vous, alors, est une pure humanité, trempée au feu, étincelante, où la violence, l'amour et le désir de gloire sont sans mesure. Où la compassion, la clémence ou la haine, la douceur, l'insulte, le geste d'implorer ou celui d'achever impitoyablement sont d'une profondeur sans égale, d'un métal sans impureté et vibrant. C'est une langue que vous n'avez jamais parlée, mais elle est limpide, et c'est comme si toujours vous l'aviez comprise. Le soleil est inaltéré, les étoiles jeunes, et l'or, l'air, la rugosité du bois, l'ardeur du feu, le sel de la mer, l'amertume de la terre sont sans mélange. Un bref instant, le socle du monde se dévoile, vous êtes auprès d'Homère, vous épelez avec lui la grammaire du monde. Alors, vous savez ce qu'est l'amour ? Ce que c'est que d'être ivre de colère ou de douleur. Vous savez ce qu'est une vague, un brasier, une mer, un cheval, l'éclat du métal, la nuit étoilée, et vous marchez, pour un instant, aux côtés d'Achille. Bonjour Vincent Delcroix.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. Merci. C'est d'Achille ou de vous, entre guillemets, que vous parlez dans ce livre ?
Ni l'un ni l'autre. D'après, je me vouvoie assez rarement quand même.
Mais justement, on va revenir là-dessus.
Oui, enfin bon, on y reviendra. L'idée, c'était plutôt de parler de la relation entre les deux. Bon, moi, à dire vrai, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est anecdotique. Mais en revanche, la relation qu'on peut avoir avec un héros comme celui d'Achille, mais dans le passage que vous venez de lire, c'est d'abord avec la totalité des personnages homériques, et ce qu'ils peuvent vous dire, c'est plutôt cette relation-là qui m'intéressait.
Totalité des personnages homériques dont Achille est la quintessence,
ouais.
Le héros par excellence.
Oui, c'est justement ça qui est assez intriguant, parce qu'en même temps, c'est pas celui qui a eu la fortune littéraire peut-être la plus importante ou la plus riche, en tout cas. De ce point de vue-là, Ulysse est peut-être beaucoup plus proche et beaucoup plus riche. Mais justement, ce qui m'intriguait, c'était pourquoi ce héros est le héros par excellence, pourquoi il apparaît pour Homère et dans le monde homérique un héros par excellence. Et puis pourquoi vous, moi, pourquoi à ce moment-là, nous saisissons cette figure comme... une figure absolue.
Ben, je vous pose la question, pourquoi ce héros rudimentaire, cette trajectoire simplissime finalement d'un individu qui est en somme un demi-dieu, ouais. Un quart de dieu on pourrait dire, il est quarteron divin, et à la trajectoire limpide et fracassée en plein geste, pourquoi ce héros-là? Pourquoi est-il le héros par exemple?
Peut-être parce qu'il est simplissime justement, et parce que c'est un peu ce que je dis au début, parce que justement cette simplicité absolue c'est l'archaïsme total, et c'est pour ça qu'il nous est quand même très très éloigné, et que le monde de l'Iliade lui-même nous est beaucoup plus éloigné par exemple que le monde de l'Odyssée, parce que précisément, mais pourquoi le choisir, c'est aussi de savoir à quel moment on le choisit, et c'est ça qui m'intéressait dans le livre.
Mais vous l'avez toujours choisi.
Ou réciproquement, je ne sais pas.
Oui, enfin, comme vous savez, dans la relation, il y a des moments où on choisit, des moments où on abandonne, où on est abandonné, où on reprend, etc. Donc c'était plutôt, oui, vous le choisissez parce qu'il incarne peut-être un certain nombre de vertus ou de qualités que vous voudriez avoir ou que vous vous sentez avoir. Et puis, il y a un moment donné où cette figure change, où vos propres qualités s'altèrent ou se modifient. Et donc, le héros s'éloigne ou revient.
Etc. C'est intéressant d'ailleurs dans ce livre, parce que bon, Achille est omniprésent, le vous est omniprésent, vous parlez à la deuxième personne du pluriel, ou un vous de politesse, je ne sais pas, on va revenir là-dessus, sur ce procédé littéraire. Vous dites Achille, c'est la jeunesse et la mort.
Ouais.
Effectivement, c'est la jeunesse parce que c'est la mort, et que donc il ne vieillit pas. Et pourtant, à un moment du livre, peut-être un des plus beaux passages du livre, qui n'en manque pas d'ailleurs, vous décrivez le moment où vous prenez vos distances, enfin où le vous prend ses distances avec Achille. Et c'est le moment, dites-vous, quelque chose étreint votre cœur et dépouille le monde, vous allez mourir. La révélation de la mort nous éloigne d'Achille.
Oui, enfin oui et non, c'est-à-dire que quand elle se fait, j'essaie de la saisir, par exemple au moment de l'enfance, donc dans la simplicité ou dans la simplicité rêvée de l'enfance, peu importe que ce soit reconstitué ou pas, il peut y avoir effectivement ce type d'expérience limite où vous êtes brutalement en contact avec l'expérience de la mort, sauf que vous n'avez pas nécessairement les moyens de la verbaliser, de la dire. Mais c'est aussi cette expérience de la mort en ce qu'elle vous vieillit, en ce qu'elle vous altère elle-même, qui vous échappe, qui vous éloigne de ce personnage, au contraire, très simple, pour lequel l'arrêt du destin est quelque chose d'avéré, une espèce de coup près tranchant, qui n'est pas celui que vous sentez, en réalité. Vous pouvez faire l'expérience de votre mortalité, mais cette expérience, elle se dilue aussi. Pour Achille, elle ne se dilue jamais, il en parle sans arrêt. Et d'ailleurs, il ne parle quasiment que de ça. Donc il y a une espèce de coïncidence totale avec cet arrêt du destin qui, au bout d'un moment, n'est plus la vôtre, tout simplement.
Achille en parle sans arrêt. Il sait qu'il va mourir en partant à Troie. Il connaît son destin. Il troque une longue vie sans intérêt, enfin sans postérité, contre une vie brève et fulgurante. Il le fait en toute connaissance de cause, en toute insouciance aussi, d'ailleurs, on pourrait dire. Il sait qu'il va mourir, dont acte. Il meurt et pourtant, la mort chez lui n'est jamais... on a le sentiment qu'il attend de mourir pour mourir, c'est-à-dire que la mort ne le concerne pas de son vivant.
Le paradoxe, c'est qu'il en parle sans arrêt, effectivement. Elle hante, elle hante tous ses rapports au monde, c'est-à-dire y compris ses rapports à ses compagnons d'armes, y compris avec ses chevaux qui parlent et qui lui annoncent sa mort juste avant le combat d'Hector. Mais cette coïncidence, encore une fois, avec le moment de la mort, pour lui, est simplement l'épanouissement de l'immortalité. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il faut mourir vite pour vivre très très longtemps, en réalité. Si vivre très longtemps est à peu près l'équivalent de l'immortalité chez les Grecs. Il faut mourir vite, agir très vite, très glorieusement, et de façon éclatante, traverser la mort le plus vite possible, entrer dans la mort le plus vite possible, parce que c'est là qu'on vit. C'est là qu'on va vivre, dans la parole des poètes.
Mourir de son vivant pour être vivant au-delà de la mort. Voilà. Oui, mais le problème, c'est... Alors, est-ce que du coup, Achille n'est pas la grande dupe du fantasme trop humain de l'immortalité? Quand il retrouve, juste ce passage, c'est important pour l'auditeur d'avoir en tête ce passage, c'est dans l'Odyssée, le chant 11, Ulysse séjourne chez les morts, il croise notamment donc le fils de Pélée, Achille, qui lui dit ceci, « Ne cherche point à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux, simple valet, être au gage d'autrui d'un pauvre laboureur n'ayant pas beaucoup de ressources, que de régner sur tout le peuple inconsistant des morts. En somme, Achille mort ne prendrait pas la même décision qu'Achille vivant. »
Mais c'est ça qui est ambigu. Enfin, il y a de multiples façons de commenter ce retour d'Achille dans l'Odyssée. À mon sens, c'est qu'il y a une différence très très importante entre le monde de l'Odyssée et le monde de l'Iliade. On a quasiment déjà changé de paradigme, à mon sens. On est dans le monde de l'Odyssée, dans le monde du retour, de la tribulation, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Iliade, puisqu'il a une trajectoire en ligne droite, alors que l'Odyssée, c'est un cercle, il s'agit de retourner. Et il y a un adoucissement beaucoup plus humain du personnage. Donc le personnage d'Achille dans l'Odyssée, à mon avis, n'est pas le même. Il faudrait comparer, parce qu'il a ce type de parole. Dans l'Iliade aussi, à un moment donné, il dit « Mais tant qu'à faire, j'aurais préféré finalement avoir une vie complètement obscure. » Mais pourquoi il dit ça à ce moment-là dans l'Iliade? Simplement parce qu'il vient d'être lésé par Agamemnon.
Oui, parce qu'il est fâché contre Agamemnon.
Et
oui.
Qu'on le prive de gloire. Donc c'est toujours lié à cette gloire-là. Achille de l'Odyssée, c'est pas celui de l'Iliade. Celui qui regrette la mort et le choix d'un destin brillant, mais extrêmement bref, c'est celui de l'Iliade. Celui de l'Odyssée, c'est un Achille déjà plus en contact avec les tribulations d'Ulysse.
Je ne crois pas qu'Agamemnon, le fils d'Atrée, jamais n'arrive à me convaincre, pas davantage les autres Danaïens. Je le vois trop. On ne gagne pas de reconnaissance à se battre avec l'ennemi obstinément sans trêve. La part est la même pour qui reste chez lui et pour qui guerroie de toute son âme. Même estime attend le lâche et le brave. Que me revient-il à la fin d'avoir tant pâti en mon cœur, à jouer chaque jour ma vie au combat? Tel un oiseau à ses petits sans ailes offre pour béquer ce qu'il peut trouver, ce qu'il trouve à grand-peine. Tel j'ai passé, moi, d'innombrables nuits sans sommeil. J'ai traversé des jours sanglants à guerroyer, à lutter contre d'autres hommes afin de prendre leurs femmes. Agamemnon a ma douce épouse, et bien qu'il dorme à ses côtés, qu'il jouisse d'elle à sa guise. Mais pourquoi alors faut-il que les Argiens fassent, eux, la guerre aux Troyens? Pourquoi lui, le fils d'Atrée, a-t-il réuni, conduit une armée jusqu'ici? N'est-ce point pour Hélène, aux beaux cheveux? Les Atrides sont-ils les seuls des mortels à aimer leur femme? Tout homme de cœur et de sens aime la sienne et la protège, et celle-là je l'aimais, moi, du fond du cœur, toute captive qu'elle était. Il me l'a arrachée des mains, elle, ma part d'honneur, il m'a joué, qu'il ne cherche pas à tenter un homme qui le connaît trop, aussi bien ne l'écouterai-je pas. Vincent Delcroix est avec nous aujourd'hui dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vincent Delcroix, philosophe et écrivain, qui est notamment l'auteur du Tombeau d'Achille, récemment paru chez Gallimard. Une libre évocation d'Achille, on va revenir dessus avec vous. Une question sur l'Iliade, Vincent Delcroix. Est-ce que finalement le sujet de l'Iliade n'est pas, non pas l'enlèvement d'Hélène, l'humiliation, le cocufiage de Ménélas, etc., mais bien davantage la colère d'Achille à qui Agamemnon a enlevé celle qu'il aimait.
Oui, c'est sûr. C'est ce qu'ont souligné un certain nombre de commentateurs, qu'en fait, ne serait-ce que parce que l'Iliade saisit juste un tout petit fragment de la grande épopée de la guerre de Troie. C'est juste un moment. Et ce que souligne Jaeger, par exemple, c'est que Achille n'est même pas le sujet de l'Iliade. C'est pas Achille, c'est sa colère. Et tout le processus narratif de l'Iliade, c'est raconter comment commence la colère, comment elle s'apaise et comment elle finit. Sauf que dans ce processus narratif, il y a des choses qui sont un peu intrigantes au regard des règles de lecture que nous, modernes, nous avons. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas un processus de résolution. Il y a un moment donné où vous êtes très, très, très en colère et puis on parvient à vous apaiser. Ou alors vous vous rendez compte que cette colère était folie et puis vous vous amendez, vous vous convertissez. Ce n'est pas du tout le cas d'Achille parce que l'apaisement à la fin est aussi brutal que le début de la colère. Donc d'une certaine manière aussi inexplicable. Il y a un moment donné, il cesse d'être en colère.
Voilà. Et le paradoxe, c'est que quand il atteint le sommet de la colère dans l'Iliade, Achille au pied léger, on va revenir sur ce pied léger, Achille au pied léger est décrit immobile.
Oui, c'est un tour de force qui est assez incroyable. Enfin, il y en a un certain nombre chez Homère. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on avait pu lui reprocher, ou ce que déjà dans l'Antiquité, certains grammairiens ou certains rhéteurs lui reprochaient, c'était de continuer à utiliser cette épithète dite homérique, Achille au pied léger, et de présenter un Achille au pied léger avec cette épithète qui lui colle constamment au talon, avec cette épithète qui finalement, se trouve complètement absurde, puisque Achille, au contraire, il est statufié, il ne bouge plus. Et c'est bien ça le problème, c'est que ça menace tout, cette immobilité.
Il est terrible, l'homme dont la course violente est désormais dans l'âme. Terrible le calme apparent, même l'apparente langueur que l'immobilité de cette bête nourrit en se ramassant sur elle-même. La course est derrière lui, 9 ans de guerre, et elle est devant lui, vers laquelle tend tout le poème. Le moment où Achille se lèvera et bondira de nouveau, d'un bond décuplé par l'attente, la tension, la rage. Toute l'âme, agitée, concentrée, va libérer sa folle énergie, et alors elle sera insurmontable. L'éruption se prépare.
C'est que, en fait, en faisant de la colère d'Achille le centre du poème, le centre véritable, c'est le mouvement. Moi, mon idée, c'était ça. C'était que le sujet réel, c'est le mouvement. L'homme en mouvement. C'est d'ailleurs ce que dit Montesquieu quand il parle des héros homériques, en disant le grand mérite, le génie d'Homère, c'est d'avoir présenté ses héros en mouvement, c'est-à-dire agissant en réalité. Et donc, tout se joue dans le poème sur... immobilité, course. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à courir? Pourquoi vous vous arrêtez? Qu'est-ce qui fait que la course s'arrête? C'est la mort ou la bouderie? Voilà. L'emportement, l'élan. Voilà, c'est ça le souffle continu en réalité du poème.
Vous tentez un rapprochement avec Nietzsche, hein, à propos des pieds légers, cette légèreté. Nietzsche qui n'aurait cru en un dieu, qui disait ne pouvoir croire qu'en un dieu qui saurait danser.
Ouais.
L'homme aux pieds légers, Nietzsche, le philosophe par excellence de la légèreté. La légèreté nietzschéenne, j'ai du mal à vous suivre en fait sur ce parallèle, parce que la légèreté nietzschéenne repose également sur une conception cyclique du temps,
oui.
Sur la possibilité d'assumer précisément la pesanteur de l'existence, la possibilité qu'elle revienne à l'infini. Et on parlait de Nietzsche à propos de Sisyphe et la question de l'éternel retour. La légèreté nietzschéenne repose sur l'assomption de cette pesanteur. Dans l'Iliade, c'est vous qui l'avez dit, il y a une trajectoire, on fonce vers les murs d'Ilion, hein, vers les murs de Troie.
Oui, oui, absolument. C'est pour ça que la comparaison, je suis tout à fait d'accord avec vous, la comparaison avec Nietzsche vaut jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que moi, je saisis Nietzsche, par exemple, dans Le Crépuscule des Idoles, où il dit les pieds légers est un attribut de la divinité, et peut-être le premier attribut de la divinité. La question, c'est de savoir ce que signifie le pied léger. Ce qui signifie, c'est soit vous êtes dans un temps cyclique ou dans le temps de l'éternel retour, qui n'est pas exactement un temps cyclique, mais vous êtes dans le principe de l'éternel retour.
Une hypothèse de temps cyclique, mettons.
Voilà. Et là, le pied léger, c'est le pied dansant, effectivement. Soit vous êtes dans un temps linéaire, et c'est ça qui est curieux, parce qu'on a l'habitude d'attribuer à la Grèce ancienne la perspective d'un temps cyclique, justement par opposition avec un temps du christianisme qui serait au contraire une histoire linéaire. Ce que montre d'une certaine manière l'Iliade, c'est que vous avez un temps continu et linéaire. Dans ce cas-là, quand vous êtes dans cette perspective-là, c'est pas la danse, c'est la course. Voilà.
Et il faut préciser que si la danse est le propre d'un temps cyclique, c'est parce que la danse est à elle-même sa propre fin,
ouais,
son
absolument.
Propre but.
Absolument.
Alors que la course, en l'occurrence, c'est courir vers Hector, vers celui qu'on va tuer.
Oui, oui, oui. Et c'est le paradoxe, c'est que dans l'Iliade, c'est que ce qui se passe, c'est beaucoup. On a l'impression à la fois d'un mouvement permanent et d'une espèce de stagnation, parce que précisément. Achille refuse de sortir de sa tente, il refuse de bouger, et du coup le temps et les mouvements qui se déroulent autour de lui sont des mouvements d'avancée, de reculade, une espèce d'affairement permanent qui fait que bon, le temps a beau s'écouler, mais en même temps il est sans arrêt étal, parce qu'il ne se passe rien en réalité, il ne se passe pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça que par moments la lecture de l'Iliade peut paraître pénible, parce que vous n'avez pas cette scansion des événements, vous en avez des événements, mais ils s'annulent les uns les autres, jusqu'à ce que quelqu'un se mette en mouvement, c'est-à-dire le principe du mouvement, c'est Achille.
Mais l'Iliade est un livre, c'est étonnant, parce que l'Iliade, c'est un livre sur la patience. L'Odyssée, c'est un livre sur l'impatience du retour. Ici, c'est un livre sur la patience.
Oui, précisément, parce qu'on a affaire à deux... Et moi, l'idée, c'était aussi de dire, bon, peut-être que ça peut vous fournir deux images, je ne sais pas comment dire, physiques ou géométriques de l'existence. Il y a une existence qui est rompue au cercle ou qui avance par cercle. Ça ne veut pas dire qu'elle revient sans arrêt au point de départ, mais elle avance par cercle, où vous avez une figure de l'existence qui est linéaire.
Je suis le Bouillat d'Achille, Bouillat d'Achille, Bouillat d'Achille, le grand Myrmidon.
Le Myrmidon.
Combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon.
Grâce au plongeon.
J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le Bouillat d'Achille, Bouillat d'Achille. d'Achille, bouillant d'Achille, le grand Myrmidon, le dire le Myrmidon. Le grand Myrmidon, le grand Myrmidon. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas.
Offenbach, dans les nouveaux chemins de la connaissance, la belle Hélène et le bouillant Achille et l'époux de la reine, pour illustrer cette conversation qu'on a ensemble, Vincent Delcroix, qui signait chez Gallimard Le tombeau d'Achille, un livre sur lequel je voudrais qu'on revienne sur un point qui est le statut du narrateur dans ce livre, parce que ça n'est pas une monographie sur Achille, vous ne faites pas ici œuvre universitaire. Ça n'est pas un roman non plus, c'est un portrait d'Achille qui est un portrait également du narrateur qui parle de lui en disant « vous ». Et alors, juste sur ce procédé-là, sur cette façon d'écrire, ça rappelle, quand on l'a lu, le début de la modification de Butor. Vous vous souvenez ?
Oui, ça c'est...
Butor,
c'est...
Pour mémoire, hein, les premières phrases de la modification de Butor, c'est « vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis votre valise couverte de granules cuir, etc. etc. » etc. C'est un étrange procédé, d'autant que vous-même, si j'ose dire, passez du vous au jeu.
Alors... Oui, donc le procédé, comme vous le constatez, n'est pas nouveau.
Oui, mais c'est bien quand même.
La question, c'est de savoir à quelle fin il est destiné. Dans le cas de la modification, le vous, c'est une place vide. Bon, c'est le lecteur. Vous êtes celui qui opérait dans le roman. Pour toute proportion gardée, pour le procédé, si c'est bien ça dont on s'occupe, pour le procédé qui est le mien, c'était pas seulement ce que je voulais, c'était jouer sur l'ambiguïté justement de cette deuxième personne. Le vous, c'est effectivement le lecteur, c'est-à-dire en l'occurrence celui qui peut avoir une figure héroïque, qui peut se rapporter à une figure héroïque à telle ou telle époque. Et puis, c'est effectivement l'auteur qui lui-même se rapporte à cette figure. Parce qu'encore une fois, ce qui m'intéressait, ce n'était pas, comme vous le dites, de faire un traité sur la figure d'Achille, de faire un portrait, encore moins une biographie, mais ce n'était pas non plus de faire une autobiographie. Ce n'était pas d'employer simplement le terme « vous » pour ne pas dire « je ». C'était au contraire... Encore une fois, c'était la relation qui m'intéressait entre ces deux pôles, celui qui se rapporte à la figure et la figure elle-même. C'était cette relation-là. Et dans cette relation-là, ce qui me paraissait important, c'était que le lecteur puisse s'y mettre, puisse comprendre que c'était sa place aussi ici, et puis de voir que, en réalité, cette relation, peut-être, cette relation à la figure héroïque, c'est quelque chose qui construit, c'est quelque chose qui construit le sujet lui-même. C'est pour ça que le jeu n'intervient dans le bouquin qu'à la toute fin, parce qu'il faut avoir probablement, il faut être passé par les multiples facettes de cette relation à votre héros, pour que vous puissiez finir par dire quelque chose comme « je », pour pouvoir parler enfin à la première personne. Au départ, vous ne pouvez pas parler à la première personne. Vous n'êtes pas un sujet préconstitué. Voilà, un peu, de façon très très pédante, ce que ça signifiait.
Vous dites au juge des enfers « je m'en vais maintenant, il est temps ». Je ne sais pas très bien, au débouché du chemin, quel paysage je vais découvrir, de quoi seront faits le ciel et les étoiles, si même j'y verrai encore des constellations. Il y a pour moi d'autres pays, la ligne plate de l'horizon et des ciels de porcelaine, des tableaux flamands, le jeu des concepts, et Rome, pas moins que la Grèce, des parents qui m'attendent, une femme que j'aime. Mais je reviens au monde aussi, pour toujours voir une chose. Achille n'est pas ici. Il ne faisait que passer, comme l'avait en son temps annoncé Poséidon à Tétis. Si je reviens à la lumière, c'est pour voir Achille, pour toute la suite des temps, en haut d'un promontoire, dansant et chantant. Même sur la mer du Nord, même dans l'Atlantique, je verrai une île grecque. Il y aura au sommet un jeune dieu éternel, un éternel jeune homme que je fixerai. Je le vois, il danse, son corps se confond avec le soleil.
Oh!
Vincent Delcroix est avec nous pour parler d'Achille aujourd'hui. Vincent Delcroix qui est l'auteur du tombeau d'Achille. D'ailleurs, vous dites tombeau d'Achille comme si vous l'enterriez. Or là, je viens de lire la fin, il n'est pas du tout enterré, il danse, son corps se confond avec le soleil. On ne sait pas, hein, à la fin de ce livre, si Achille est une figure de l'immobilité, de la mort, de la fixité, après tout le soleil est fixe au zénith, ou bien s'il est une figure de la vitalité, celui dont le corps se confond avec le soleil comme avec les éléments.
Mais précisément, c'est ce qu'il advient d'Achille après la mort, ou dans la mort, c'est-à-dire dans les enfers, c'est le thème du dernier chapitre du livre, en l'occurrence. Et du coup, ce que signifie un tombeau d'Achille, ou ce que pourrait signifier un tombeau d'Achille, qui est en fait probablement plutôt un cénotaphe qu'un tombeau. Il n'y a pas de corps dedans. Il n'y a pas de corps parce que précisément, et c'est ce que dit Poséidon à Thétis au moment des funérailles, il lui dit « Mais sache que ton fils deviendra Dieu, il ne restera pas ici et il sera... » Bon, c'est comme ça qu'il va sur...
C'est la première version du Christ ?
Non, alors là, franchement, je pense que
on les tire par les cheveux tous les deux. Là,
ouais, c'est le cas de le dire. Là, il y a vraiment deux mondes complètement différents. Mais ce qui est sûr, c'est que il peut pas séjourner dans un tombeau parce que il est l'image absolument éclatante de la vitalité. Et il n'apparaît d'ailleurs dans l'Iliade, de toute façon le récit de sa mort n'apparaît pas dans l'Iliade, il n'apparaît dans l'Iliade que sous la forme de la vitalité absolue, c'est-à-dire de l'éclat du soleil. C'est le soleil, effectivement.
Sauf quand il apprend la mort de Patrocle. Oui. Un noir nuage de douleur, donc il vient cacher le soleil de lui-même. Un noir nuage de douleur aussitôt enveloppe Achille. À deux mains, il prend la cendre du foyer, la répand sur sa tête, en souille son gentil visage. Sur sa tunique de nectar, maintenant, s'étale une cendre noire. Et le voici lui-même, son long corps allongé dans la poussière. De ses propres mains, il souille, il arrache sa chevelure.
Ah oui, sa chevelure dorée, justement. C'est... Ce qui est intéressant dans ce passage-là, mais dans d'autres, c'est que Achille représentant vraiment la clarté solaire qui irradie le monde homérique, cet Achille-là peut porter aussi un côté nocturne, où, comme je l'ai dit à un moment, il y a une taie dans le soleil, il y a une ombre. Alors cette ombre, c'est peut-être ce que plus tard on pourra appeler la mélancolie, à laquelle est liée la colère, par exemple, une espèce de cyclothymie, tout ce qu'on voudra, tout ce que pourra fournir une explication physiologique, si on veut. Mais l'intérêt, c'est de voir que dans ce soleil éclatant, il y a des périodes de nuit, de nuit complète et de nuit très 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 intense. C'est celle de la déploration du corps de Patrocle, c'est celle du songe d'Achille, parce qu'il rêve une seule fois pendant son sommeil, et c'est dans ce rêve-là que lui apparaît l'ombre d'Hector qu'il essaie d'étreindre et qui lui échappe. C'est un passage vraiment magnifique. Et puis il y a une troisième nuit, si on peut dire, qui est celle où il accueille Priam, qui clôt le poème.
C'est peut-être le plus beau moment, d'ailleurs. C'est indépassable.
C'est un passage absolument sublime. Tous les deux se regardent, se taisent, s'admirent l'un l'autre. C'est dit explicitement. Achille est fasciné par la noblesse de Priam. Priam est fasciné par la beauté d'Achille, qui vient quand même de massacrer son fils. Et puis il se taise, il regarde la nuit, et là il y a une espèce de sérénité absolue. Simplement, cette nuit sur laquelle se clôt le poème, cette nuit, elle est temporaire. On sait très bien que ce qui va se passer par la suite, c'est justement le retour du soleil, c'est-à-dire la violence, le meurtre, la guerre, tout simplement. Donc il y a des moments... C'est-à-dire, c'est pas simplement une ombre qui voile le visage d'Achille ou qui voile son caractère si simple, si entier. Il y a cette ombre, mais il y a aussi une succession, une période entre la nuit et le jour qui fait que c'est un personnage qui les traverse continuellement. Voilà, il y a comme si, à un moment donné, effectivement, le soleil achilléen se couche. La colère s'apaise, la soif de vengeance cède le pas au deuil, et puis à un moment donné où le soleil renaît avec toute sa violence.
Comme la vengeance d'ailleurs a cédé le pas à l'amour, Achille est capable d'amour. Il faut rappeler d'ailleurs un tout petit peu les péripéties, peut-être pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas en tête exactement le parcours d'Achille. Il a tué Hector, qui est donc le fils de Priam, il a tué Hector, qui est le roi de Troie, il a tué Hector pour venger la mort de Patrocle. dont on dit qu'il était son amant.
Oui, il y a de multiples conquêtes d'Achille, enfin, de conquêtes amoureuses en l'occurrence, parce qu'avant son arrivée à Troie, il y a des épisodes assez fameux, ne serait-ce que son amour pour Iphigénie, qu'on connaît particulièrement bien.
Dont on raconte qu'il l'épouse aux enfers, d'ailleurs.
Dont on raconte qu'il l'épouse, enfin, il en épouse beaucoup aux enfers, c'est bien, parce qu'on lui en prête beaucoup.
Hélène, Iphigénie, voilà, que des jolies filles.
Ouais. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc, il a un certain nombre de conquêtes, et puis il y a cet amour central dans l'Iliade, cet amour pour Patrocle. Et ce qui est remarquable, c'est... c'est pas l'occasion de discuter de l'homosexualité d'Achille ou de la valeur de l'homosexualité en Grèce archaïque. C'est pas la Grèce classique, en Grèce archaïque. Mais ce qui est remarquable et ce qui frappait les contemporains, enfin quasiment les contemporains d'Homère et surtout au siècle classique, c'est la pudeur incroyable d'Homère. C'est-à-dire qu'il est dit qu'Achille aime Patrocle, mais comment l'aime-t-il exactement? Comment l'aime-t-il? De quel métal est cet amour? Et alors là commence une longue tradition d'exégèse, si on peut dire, pour savoir de quelle nature était cet amour. Ça intéresse pas tellement Homère de ce point de vue-là. Ce qui l'intéresse, c'est la pureté du sentiment amoureux.
C'est un amour absolu. Ouais. C'est un amour absolument sans faille. Vous avez employé le mot archaïque. Or, ce mot revient dans votre livre, notamment dans le passage dont on a parlé tout à l'heure, passage où je mets des guillemets là encore, où vous va mourir, ou découvre qu'il va mourir. Ce n'est peut-être pas tragique, dites-vous, mais l'inaltérable certitude que vous en avez, qu'elle soit sereine ou angoissée, vous jette brusquement de nouveau sur le sol archaïque.
C'est l'idée, là aussi pas super originale, qu'il y a un certain nombre d'expériences limites qui vous raclent, tout simplement, qui vous dépouille et qui contribue à cette simplification de tout votre être. Alors, l'une des expériences, pour ne pas reprendre les termes de Jaspers, mais l'une des expériences limites, c'est l'expérience de la mort. Bon, c'est très clair qu'elle vous dépouille, cette expérience. Ce n'est pas dans la mort que vous êtes dépouillé, c'est dans l'expérience que vous en faites. Bon, elle vous racle. L'arrivée, le retour au socle archaïque, c'est ça. C'est ce que produit ce type d'expérience. Mais l'expérience d'une colère absolue, comme celle d'Achille, parce qu'elle est tellement absolue qu'elle n'a même plus de motif. C'est-à-dire que c'est ça qui effraie ses compagnons, c'est qu'au bout d'un moment, ils lui disent mais t'as complètement perdu la mesure.
Fait peur aux Myrmidons eux-mêmes, d'ailleurs.
Oui, il fait peur à tout le monde.
Il fait peur à ses lions, n'est-ce pas, à ceux qui l'entourent.
Oui, absolument, parce qu'il s'est complètement sorti du monde et la colère tourne à vide. C'est uniquement... Donc elle est entièrement pure. Elle n'est même plus liée à quelque motif que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne ne peut l'apaiser, si ce n'est lui, par un acte parfaitement arbitraire. Bon, d'accord, j'arrête. Bon. Qui est motivé en fait par une autre colère qui est celle de la vengeance contre Hector. Ces expériences-là sont des expériences où on a l'impression, où vous avez, où nous avons peut-être l'impression que notre être entier se simplifie, ce qui n'arrive jamais à dire vrai. Au contraire, je pense que le principe de l'existence, c'est qu'on... Nous sommes complexes, multiples.
Le principe aussi de la colère, c'est qu'elle confond les motifs, d'une certaine façon. Elle ne les abolit pas. Alors, la colère d'Achille a ceci de tout à fait miraculeux, vous l'avez dit, de supprimer tout motif.
Finalement. Mais c'est ce qui fait qu'elle est parfaitement effrayante, parce qu'elle est, encore une fois, elle est plus attachée au mondain, au psychologique, au moral, tout ce que vous voulez. Elle n'est plus attachée par rien. Il n'y a plus de lien à rien.
Mais pourtant, Achille n'est pas un fou. C'est même le contraire d'un fou.
Non, c'est le contraire d'un fou. Et l'un des épisodes qui le marque le mieux, c'est après la mort d'Achille, c'est la dispute pour les armes d'Achille entre Ajax et Ulysse, puisqu'il s'agit...
Il faut redire un petit peu. Alors, Ulysse, tout le monde sait qui c'est, mais Ajax, on le sait moins, c'est un géant.
Ajax, c'est un géant, c'est une brute, mais en même temps...
C'est le numéro 2, en gros, dans l'armée
grecque.
Oui,
et c'est d'une certaine manière l'héritier le plus légitime d'Achille. C'est un compagnon d'Achille, un ami d'Achille, et il s'avère qu'à la mort d'Achille, bon, il faut se partager, ou plus précisément attribuer les armes fabuleuses d'Achille. C'est un grand honneur. Et ce qui est très révélateur, c'est qu'au lieu, on pourrait s'attendre dans un monde archaïque à ce qu'on attribue ces armes au terme d'un combat, par exemple, montrant la vaillance de l'un par rapport à la vaillance de l'autre. Ben non, c'est un débat, c'est-à-dire une argumentation qui va décider à qui on va attribuer ces armes. Donc évidemment, dans l'argumentation, Ajax... qui est plutôt le bon soldat, la grosse brute aussi, il faut bien
dire. Ne peut rien contre le truand.
Ne peut rien contre le rusé et le malin Ulysse. Donc il va perdre les armes auquel il tenait particulièrement. Bon. Et ce qui suit cette humiliation, c'est là, pour le coup, la folie d'Ajax. C'est-à-dire que, folie qui est alimentée par la vengeance d'Athéna, bon, ça c'est une autre histoire, et Ajax, fou de douleur, mais vraiment fou au sens clinique du terme, fou de douleur d'humiliation, s'emballe, et au cours d'une nuit, sort de sa tente et va massacrer un troupeau de bétail en croyant qu'il massacre les chefs grecs, c'est-à-dire leurs compagnons. Ben, ça, c'est la face nocturne ou dégénérée, d'une certaine manière, de l'impétuosité ou de l'emportement ou de la colère d'Achille. Il y a une version proprement folle de la colère d'Achille. Achille reste juste à la limite qu'il sépare de la folie. Il ne sombre pas, c'est-à-dire que le soleil reste éclatant. On ne verse pas définitivement dans le côté nocturne qui est le massacre des bêtes par Ajax.
Le legs achilléen, c'est la folie d'Ajax.
Ben, en tout cas, c'est Ajax... révèle par là, d'une certaine manière, aussi une certaine fin de la figure d'Achille. C'est-à-dire que dans le monde qui va devenir le monde d'Ulysse, dans le monde de l'Odyssée, il n'y a plus de place, d'une certaine manière, il n'y a plus tout à fait de place pour l'héritier légitime d'Achille. C'est fini, on quitte un monde, on quitte le monde de l'éclat guerrier pour entrer, alors, sans nuance laudative ou péjorative, mais pour entrer dans un monde plus personnalisé, plus humain, plus nuancé, plus doux. Simplement.
Oui, mais en même temps, l'attribution des armes...
Plus intelligent, peut-être.
Oui, mais c'est peut-être pour le pire, d'ailleurs. On ne sait pas, ce serait la victoire de Ripide sur Échille. Enfin, ce sont là des débats byzantins, ou pas encore. Mais l'attribution des armes à la ruse... L'attribution des armes d'Achille à la ruse, symboliquement, c'est étonnant parce que, quand on y pense, les Grecs l'emportent sur Troie, non pas par force, ils étaient en train de perdre, ils avaient besoin de l'aide d'Achille, qui méprisait lui-même, d'ailleurs, le commandant en chef, Agamemnon, des armées grecques, qui lui-même était plutôt misérable, d'ailleurs, c'est lui qui sacrifie sa fille, c'est lui qui se conduit de façon inique, c'est lui qui vole les esclaves d'Achille et ses favorites. L'armée grecque est commandée par un roi qui n'arrive pas au talon du roi de Troie, Priam, et au terme de la victoire des Grecs, obtenue par ruse, donc comme chacun sait, c'est à la ruse, c'est la ruse qu'on récompense, Absolument. C'est à la ruse qu'on attribue les armes. C'est comme une défaite victorieuse, sanctionnée ensuite par la colère des dieux dans l'Odyssée, non ?
Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est très, très important le fait que...
C'est ce passage à l'intelligence, c'est ça
absolument.
Que je veux dire. C'est la fin de la force, c'est le passage à l'intelligence.
Absolument. Il y a une mort d'Achille qui est très, très symbolique. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui emporte Troie. Ce n'est pas lui qui finira par gagner. Il y a une victoire de la ruse, c'est évident. Alors... Il y a de multiples façons de l'interpréter. Il y a une façon, historique. Il y a un changement de monde très, très net où on entre dans une structuration de la société, et y compris de la société politique, qui introduit la parole, par exemple, et la parole à la fois discursive, débattante, dialogale, tout ce qu'on veut, comme... finalement, le moteur central de la constitution de la société. C'est fini, le monde d'Achille est terminé.
Thank you.
C'est Cassandre, fille de Priam, condamnée à voir l'avenir sans être jamais entendue. Statut infiniment douloureux, évidemment, puisqu'elle est celle qui dit le réel, elle est celle qui prévient les Troyens du danger qu'il y aurait à introduire, justement le cheval de Troie, cette figure de la ruse qui vaut aux Grecs de l'emporter finalement, et que nul n'entend. Quel est le statut de cet étrange personnage?
Il est très intéressant d'abord parce qu'elle doit cette malédiction de ne pas être entendue, de ne pas être comprise, à l'acharnement d'un dieu qui est Apollon, qui est le dieu solaire, qui est le dieu des arts aussi, donc y compris le dieu de la poésie. Ce qui fait que la parole de Cassandre, le statut de cette parole prend une dimension tout à fait particulière qui est proche de la parole oraculaire pythique. La Pythie, c'était la prêtresse d'Apollon, hein, et dont l'oracle était réputé obscur. Donc la parole liée à la fois à cette malédiction et à cette proximité du dieu éclatant est une parole entravée dont la compréhension n'est jamais directe. Et ça, c'est très très important. L'idée... Alors, bon, il ne faut pas faire de comparaison trop rapide avec d'autres types de paroles oraculaires ou prophétiques, pour ne pas le dire, par exemple, le prophétisme biblique. Mais il y a quand même une chose singulière à chaque fois qui est soulignée, c'est que la description de l'avenir est toujours à la fois une possibilité rêvée et qu'elle n'est jamais entendue. C'est-à-dire qu'il y a bien là, même quand des mortels exceptionnellement possède un savoir des futurs contingents ou de l'avenir, cette parole-là ne peut pas franchir un certain état du savoir, elle ne peut pas être comprise. C'est-à-dire qu'on peut le dire, mais cette parole ne fonctionne pas sur un régime normal de discours.
Donc en somme, la clairvoyance de Cassandre se heurte à la surdité de ceux à qui elle s'adresse.
Elle est annulée. C'est-à-dire que la position du lecteur, de ce point de vue-là, ou de l'amateur du mythe, est très très ambiguë, puisque lui sait qu'elle dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle prédit réellement l'avenir. Et il peut se lamenter de voir la surdité de ses compagnons d'infortune. Mais dans le contexte dans lequel s'énonce cette parole, ce qui est surtout significatif, c'est que plus la parole apparemment a du sens, moins elle en a pour ceux qui l'écoutent. Elle est saturée de sens parce qu'elle dit le vrai, elle dit ce qui va se passer, mais en même temps, ce sens est totalement impuissant. C'est-à-dire qu'il n'est jamais compris.
L'autre exemple, c'est tout simplement le fait qu'Achille sait pertinemment, on l'a vu tout à l'heure, sait pertinemment qu'il va mourir en allant à Troie. Et c'est pas qu'il fait la sourde oreille, c'est qu'en somme, il s'en moque.
Il y a une espèce de plainte continuelle aussi qui consiste à rappeler que il y a des moments absolument magnifiques où quand le meurtre de Lycaon, par exemple, quand il va égorger ce gamin, et donc qui est un Troyen, le gamin lui dit je t'en prie, épargne-moi, je suis encore un enfant. Enfin, c'est poignant cette scène-là, et la réponse d'Achille est impitoyable, dit Homère. La réponse d'Achille, elle dit: mais quoi, pourquoi est-ce que moi je t'épargnerai alors que moi-même qui suis le plus beau, moi-même qui suis le plus grand, moi-même suis condamné à mourir? Alors pourquoi toi je t'épargnerai? Donc il y a une espèce de savoir tragique, évident, qui gouverne tous les gestes d'Achille, et qui est un savoir aussi, pas seulement tragique, qui est un savoir aussi mélancolique d'Homère, c'est-à-dire cette condition mortelle qui prend comme première proie le plus beau. Justement, le plus grand.
Je voudrais avoir votre sentiment, Vincent Delcroix, sur peut-être le seul moment un peu intéressant d'un épouvantable nanar appelé Troie, le film de Wolfgang Petersen, dans lequel Brad Pitt interprète un Achille assez solaire, je dois dire, et aux cheveux bien dorés, et qui court tout le temps. De ce point de vue, c'est assez fidèle à la lettre du texte, mais enfin, la fidélité à la lettre du texte s'arrête à peu près là. Sauf que là, Achille, pour plaire à Briseis, la Troyenne, lui dit ce qu'il pense des dieux. Briseis, dont on a fait une prêtresse, lui dit ce qu'il pense des dieux, et je voudrais savoir ce que vous-même pensez de ce qu'il raconte.
Je vais te dire un secret, une chose qu'ils ne t'apprennent pas dans ton temple. « Dieu nous envie. Il nous envie parce que nous sommes mortels. Parce que chacun de nos instants peut être le dernier. Et tout est beaucoup plus beau parce que nous sommes condamnés. Tu ne seras plus jamais aussi ravissante qu'à cet instant. Plus jamais nous ne serons ici tous les deux.
Je croyais que vous n'étiez qu'une grosse brute. J'aurais pardonné une grosse brute.
Oui, donc, la grosse brute est capable de douceur, comme vous-même le dites avec plus de talent, d'ailleurs, Vincent Delacroix, dans votre livre « Tombeau d'Achille ». Non, je vous en prie. Quand même, il y a quand même deux choses. Cette inversion des termes, ce sont les dieux qui nous envient, car nous sommes mortels, et la mort n'est plus une malédiction, mais elle est une chance. Est-ce qu'après tout, le personnage d'Achille n'est pas résumé là ?
Oui, bah c'est très séduisant. Hein. Ce type de parole, d'ailleurs, sonne bien à nos oreilles. Je ne suis pas sûr qu'elle soit, mais c'est peut-être pas l'intérêt d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle soit conforme à la vision homérique des dieux qui, au contraire, c'est pas qu'ils nous envient. Nous les amusons aussi. C'est plutôt ça. Et quant à envier notre mortalité, il y a quand même un personnage, au contraire, qui est extrêmement touchant, en l'occurrence, et qui dit le contraire, c'est Thétis, c'est la mère d'Achille, au contraire, qui est inconsolable de la mortalité de son fils.
Rappelons pour mémoire qu'elle a voulu le rendre immortel de toutes les manières. Elle ne l'a pas seulement plongé dans le Styx en le tenant par le talon, elle l'a aussi brûlé, elle a tout fait.
Oui, il y a des versions différentes de la légende, mais effectivement, son grand malheur, le grand malheur de Thétis, c'est qu'elle est immortelle. Elle n'est pas seulement immortelle, elle ne vieillit jamais. Donc elle restera d'une beauté radieuse tout le temps, et on l'a obligée, pour des raisons obscures, et on l'a obligée à épouser un mortel, catastrophe. Non seulement elle est condamnée à voir son mari vieillir, et ça ne doit pas être très très rigolo tous les jours, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'est pas avec lui, mais elle en aura un fils ou des enfants qui seront nécessairement mortels. Et ça, c'est épouvantable. Donc la condition de mortel, elle est...
Rappelons que Thétis était quasiment promise à Zeus ou à Poséidon.
Oui, mais sauf qu'un oracle disait que le fils qu'elle aurait de son mari serait plus puissant que son père. Donc évidemment, ça a
Zeus,
un peu refroidi...
instruit par son propre papa, n'est-ce pas, ouais. a voulu devancer la chose. Et donc là...
Oui, ça a un peu refroidi les ardeurs de Zeus, c'est moins qu'on puisse dire. Mais... cette figure-là, je trouve que c'est une figure d'une beauté extraordinaire dans l'Iliade, parce qu'elle est toujours là pour implorer un peu plus de temps. Et c'est elle qui est au plus proche de la condition mortelle, d'une certaine manière, parce que même Achille en fait un instrument éclatant de la gloire. Mais c'est elle qui vit, de façon peut-être plus intense, l'humanité de ces héros-là. Parce que c'est elle qui, du haut de l'éternité, si on peut dire, enfin pas de l'éternité, pardon, du haut de l'immortalité, voit ce que c'est que cet instant fugace, mais aussi le caractère justement pas totalement dérisoire de la vie humaine, c'est-à-dire le temps qui la structure. Il en faut toujours un petit peu plus. Elle ne demande que ça à Zeus. Elle ne demande pas qu'il ne meure pas, que son fils ne meure pas. Elle demande qu'il vive encore un peu longtemps, un peu plus longtemps.
Messager menaçant qui d'où t'a fait sortir. Ta faiblesse et ta gloire. Ah, je voudrais mourir.
Merci Vincent Delcroix, hein. Merci infiniment d'être venu nous parler du tombeau d'Achille, hein. Donc votre dernier livre paru chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre.
Il faut vivre et partir.
Jetez-vous, chers auditeurs, ou rejetez-vous, si ça n'est pas encore fait, sur l'Iliade et l'Odyssée, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les éditions possibles. J'allais vous dire presque, peu importe la traduction, jetez-vous dessus, c'est un régal à chaque page, et même quand c'est ennuyeux. Suivez-nous suite et fin demain de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie grecque, on recevra Luc Ferry, qui viendra nous parler de La sagesse des mythes, Apprendre à vivre, tome 2, paru chez Plomb. À la technique, aujourd'hui, c'est l'immortel Jean Frédérics. À la réalisation, le fougueux François Connac. Assistante, Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Éléonore Clovis et Gabriel Alperne. France Culture, il est exactement 17h50. Tout de suite, on retrouve Albert Jacquard.